en séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, Monsieur le Chancelier, Mesdames et Messieurs les académiciens, chers amis, les sondages politiques sont omniprésents. Pas un jour, pas une émission de débat d'actualité sur une chaîne de télévision sans qu'il y soit fait référence. Mais quel rôle joue-t-il précisément dans notre système politique ? La réalité correspond-elle à l'apparence ? La Ve République peut-elle être qualifiée de République des sondages, comme m'invite à y répondre mon ami François Dorcival, que je remercie pour ses propos trop élogieux, et je vais m'essayer de m'y efforcer. Pour y parvenir, il me faut revisiter à la fois l'histoire des sondages depuis plus d'un demi-siècle et aussi l'histoire de la Ve République. J'essaierai de ne pas vous entraîner jusqu'à la fin de la soirée. Pour aller à l'essentiel, les sondages en France sont étroitement liés à l'élection présidentielle au suffrage universel direct et à l'importance qu'elle a prise. Pour en prendre la mesure, il faut revenir à leur découverte lors de la première élection, celle de 1965, examiner leur installation dans le jeu politique, tant les origines du phénomène permettent de mieux comprendre les causes. Et puis, il faut étudier, bien sûr, l'évolution du rôle des sondages au fil de cette République dont on vient de fêter le 60e anniversaire. Cela va me conduire naturellement à vous parler à la fois des sondages et de la Ve République, en espérant communiquer à votre Assemblée un peu du plaisir que j'ai pris à cette double plongée. Venons-en donc à cette découverte et de la présidentielle et des sondages. Replaçons-nous en 1965. Une élection inédite dont on ne maîtrise pas alors les caractéristiques. Le seul précédent, qui n'était guère rassurant, datait de 117 ans avec l'élection présidentielle du 10 décembre 1848 où Louis-Napoléon Bonaparte avait obtenu au premier tour de scrutin, le seul, 74,7% des suffrages exprimés et un de ses concurrents, un certain Alphonse de Lamartine, 0,2% des voix. L'élection va fixer ses règles dès 1965. J'en énumère quelques-unes. Une compétition politique, pas un sacre, ni une liste d'aptitudes. Ce que semblait croire le général de Gaulle. Dans l'une de ses rares interventions lors de cette campagne, il débute ainsi le 30 novembre 1965. « Dimanche prochain, dit le général, en élisant le chef de l'État, vous aurez à désigner le Français que vous estimez en conscience le plus digne et le plus capable de représenter la France et de garantir son destin. » Le général, semble-t-il, d'après ses biographes, jusque octobre, pensait obtenir, référence à Louis-Napoléon Bonaparte ou pas, environ 70% des suffrages dès le premier tour. Et si la règle que fixe là le général de Gaulle, le Français le plus digne, avait été appliquée, combien de résultats présidentiels auraient été différents depuis 1965 ? On peut se poser la question. Deuxième règle, il y a une campagne à mener et c'est la campagne qui fait l'élection. Elle permet la mobilisation des soutiens et elle empêche la critique des adversaires de prospérer. Or, le général de Gaulle n'intervient pas à la télévision, à l'époque une chaîne unique, 2 heures d'antenne pour chaque candidat, toute la France devant, non qu'il n'y ait énormément de postes de télévision, mais on se regroupe pour regarder. Et c'est seulement à l'extrême fin qu'il utilise un peu son temps de parole. Mieux, il interdit à ses ministres de faire campagne. Aucun meeting important n'est organisé par les gaullistes avant le premier tour. Troisième règle. Des programmes, des propositions, des orientations, des options, des contrats, le terme variera, sont à présenter. Le silence sur l'avenir est de mauvaise méthode. Or, en 1965, le général de Gaulle ne parle que de son bilan et de la nécessité de confirmer la République nouvelle. Mais le bilan est un acquis, pas une promesse. Quant à la République nouvelle, le simple fait que l'élection présidentielle se tienne prouve que le régime est en train de s'installer. Pas un mot de Charles de Gaulle sur ce qu'il fera dans un deuxième mandat, y compris dans ses entretiens de l'entre-deux-tours avec Michel Droit. C'est une conception militaire de l'action politique où le chef, en aucun cas, ne dévoile ses projets. Quatrième règle, quatrième observation, la présidentielle est et sera une élection à deux tours. Si le général de Gaulle n'est pas parvenu à se faire élire au premier tour, qui pourrait y arriver ? Avec la multiplicité des candidats et la fragmentation politique, le ballottage est la règle. Et on en revient à cette bonne vieille méthode de la Troisième République. Au premier tour, on choisit. Au second, on élimine. Le général, du coup, peut quand même, entre les deux tours et ayant subi ce dur ballottage, à ses visiteurs qui propagent le bon mot, dire « A-t-on jamais vu un dictateur en ballottage ?» Mais la présidentielle appelle un élargissement politique pour gagner le second tour. Dès lors qu'il y a un second tour, il est nécessaire d'avoir des alliés ou au moins des soutiens. À travers ces règles que je viens d'énoncer rapidement, on comprend que celui qui s'est le moins adapté à l'élection présidentielle nouvelle, c'est son créateur, le général de Gaulle. Et tout simplement aussi parce qu'il ne déclarait-il pas qu'il était le détenteur de la légitimité nationale que j'incarne depuis 20 ans, un propos évidemment tenu en 1960. C'est dire à quel point la notion de compétition électorale lui était étrangère. C'est une terrible leçon d'humilité que reçoit le général et qu'il avoue dans sa dernière intervention avant le deuxième tour, je le cite à nouveau, « Je ne dis pas que je suis parfait et que je n'ai pas mon âge. » Je ne prétends nullement tout savoir et tout pouvoir. Et en même temps, à l'issue de cette non-campagne, de ce non-respect des règles que je viens d'énoncer, ce sont des scores exceptionnels qu'obtient le général de Gaulle quand on regarde la série des 10 élections présidentielles, presque 45% au premier tour, 55% au second. La présidentielle de 1965, c'est aussi la découverte de la classe politique. En relisant, grâce à vous, les sondages d'avant 1965, j'ai eu la surprise de constater le taux vertigineux de sans-opinion que d'éminents leaders politiques recueillaient avant 1965. Les anciens présidents du Conseil de la 4e, encore en activité, les premiers ministres de la 5e, en octobre 1962. À la question simple, avez-vous une bonne opinion ou une mauvaise opinion de telle ou telle personnalité ? Pour Pierre Flimelin, 47% de sans-opinion. Edgar Faure, 49%. Pierre Mendès-France, 38%. Guy Mollet, 37%. Antoine Pinet, 36%. Et stupéfiant, Michel Debré, qui vient d'occuper pendant 3 ans, et de quelle façon le poste de Premier ministre, 42% de sans-opinion. Quant au gouvernement Pompidou, à la même date à peu près, c'est 51% de sans-opinion alors qu'il est en place depuis 5 mois. Et quand on pense au sondage d'aujourd'hui, où il ne faut pas 8 jours aux sondés pour donner leur avis en général négatif sur le gouvernement en place, on voit la différence. Dans ces conditions, on comprend mieux le premier passage à la télévision de Jean Le Canuet, pourtant président du MRP jusqu'à sa candidature, le MRP qui était l'un des grands partis politiques. J'emprunte cette citation au livre de Gérard Courtois sur l'histoire des présidentielles, parti de campagne, paru aux éditions Perrin début 2017, et je lui ferai, s'il m'y autorise, quelques autres emprunts de citations savoureuses. « Je suis Jean Le Canuet, » dit-il à la télévision aux Français. « J'ai 45 ans. C'est l'âge des responsables des grandes nations modernes. J'ai une famille. Elle comprend 3 enfants. Je ne suis pas un héros de légende, mais un homme parmi les hommes partageant vos préoccupations et vos aspirations. » À son ministre confident, qui le rapporte dans C'était de Gaulle, Alain Perfitte, qui le presse d'utiliser son temps d'antenne, le général grince. « Vous me voyez aller à la télévision et dire « Je m'appelle Charles de Gaulle ». La découverte de la présidentielle et de la classe politique, c'est aussi la découverte des sondages, qui pourtant existent en France depuis plus d'un quart de siècle, car le sondage correspond parfaitement aux caractéristiques du nouveau scrutin. C'est une élection nationale et globale, foin des 470 scrutins locaux des circonscriptions législatives aux configurations variables d'une circonscription à l'autre. C'est une élection décisive. À elle seule, elle attribue le pouvoir de façon immédiate et sans négociation ultérieure entre les partis. C'est une élection personnalisée. Les candidats deviennent des vedettes et des vedettes familières aux Français. C'est une élection simple. S'intéresser au sondage, c'est retenir quelques chiffres seulement. Ce lien entre la présidentielle et les sondages s'inscrit dans un triangle où la télévision prend sa place. La télévision, en 1965, devient le mass-média qui compte le plus. Et vont constituer un triangle changeant la vie politique et la communication politique. Cette présidentielle de 65 se fait à la télévision. Et les sondages, en particulier ceux de l'IFOP à l'époque, créés par Jean Stoetzel, votre futur confrère, fournissent des informations décisives sur l'évolution des intentions de vote du général de Gaulle. Avant sa déclaration de candidature, qui date du 4 novembre, 66% des intentions de vote au premier tour de scrutin pour le général. Après sa déclaration de candidature, le 4 novembre, et avant toute campagne télévisée, la campagne télévisée, ce sera 15 jours, 61% des intentions de vote au premier tour. Après une semaine de campagne officielle à la télévision, et alors que le général ne s'exprime pas du tout, 46,5% au premier tour, le ballottage se profile. À 3 jours du premier tour, 43%, et pourtant le général a pris la parole. Le ballottage est annoncé, mais il va créer un choc énorme, car les sondages sont encore peu connus du public, peu cités, et de toute façon, dans le ballottage, il y a comme un sacrilège à l'égard du général de Gaulle. Le François du gaulliste Pierre Lazareff, à la veille du premier tour de scrutin, et alors qu'il publie habituellement les sondages de l'IFOP, met 3 sondages côte à côte. Ceux de l'IFOP et de la Sofres, créés 2 ans auparavant par le très jeune Pierre Veil, et le sondage des renseignements généraux, c'est-à-dire du ministère de l'Intérieur. Ceux de l'IFOP et de la Sofres annoncent le ballottage. Celui des renseignements généraux donne 54% au général de Gaulle au premier tour. La crédibilité des sondages se trouve installée par cet effet de souffle. Le ballottage s'est effectivement produit. La réputation des instituts privés est lancée. Celle des renseignements généraux sera moindre. La justesse des sondages est un élément clé dans leur découverte. Je passe maintenant à l'installation et de la présidentielle et des sondages, puisqu'ils ont partie liée. La vie politique change avec le poids de la présidentielle et les sondages sont en parfaite osmose avec ce scrutin. Les leçons s'imposent de la présidentielle. D'abord, la compétition est ouverte. Si face au général de Gaulle, François Mitterrand au second tour a obtenu 45% des suffrages, c'est que la conquête du pouvoir est possible par la présidentielle et que c'est même le plus court chemin pour y parvenir. Je lisais récemment dans le Figaro l'entretien de Jean-Luc Mélenchon avec Jérémy Corbyn, le leader travailliste en Grande-Bretagne, où Mélenchon confiait « Pour moi, en France, c'est le système présidentiel qui rend les choses possibles ». En second lieu, le régime de la Ve République est installé. La clé de voûte, c'est la présidentielle qui devient tellement populaire auprès des Français qu'elle ne peut plus être remise en cause, sauf cataclysme. Et je note par exemple, dès le début, le ralliement massif des électeurs communistes au système de la présidentielle. Troisième chose, dans une présidentielle, la demande de changement est valorisée. Aucun bilan ne peut suffire à satisfaire les électeurs. Ce qui est attendu, ce sont les changements à faire, les améliorations à apporter. Quatrièmement, la présidentielle pousse au rassemblement et aux alliances. Il faut viser un score élevé de premier tour qui permet la qualification, mais aussi une capacité d'élargissement. Cinquièmement, la vie politique se trouve accélérée, car la présidentielle est dans toutes les têtes et la préparation de la présidentielle suivante quasi immédiate. 2 leaders politiques comprennent plus vite que tous les autres les nouvelles règles du jeu. François Mitterrand et Georges Pompidou. Mitterrand fixe sa stratégie, régénérer la gauche non communiste, s'imposer à la SFIO par le leadership acquis à la présidentielle, faire alliance avec le PC en le maîtrisant grâce précisément à la présidentielle. Quant à Georges Pompidou, Il dit des choses décisives dans une conférence de presse tenue le 16 décembre 1965, à 3 jours du second tour, qui voit la réélection du général de Gaulle. La commission de contrôle présidée par Alexandre Parodi lui ayant refusé l'accès à la télévision dans l'égalité des temps de parole. Les temps changent là aussi. Première remarque de Georges Pompidou, il tire les leçons du scrutin. Entre guillemets, il va de soi que le général de Gaulle, après tout ce qui a été dit, discuté, étalé, sera amené à repenser son action. Très franchement, je ne vois pas en quoi le général de Gaulle a repensé son action après l'élection présidentielle de 1965, mais on voit là quand même la conception d'une démocratie d'échange où le fait que les électeurs s'expriment conduit les leaders politiques à évoluer et en tenir compte. Pompidou fixe l'objectif. Entre guillemets toujours, en ce qui me concerne, j'ai toujours été partisan de l'élargissement de la majorité. Appréciation sur ce qui me concerne, en ce qui me concerne, ce n'est pas le cas de tout le monde, apparemment, dans l'esprit de Pompidou. Et effectivement, en 1969, il ouvrira la majorité aux centristes et il n'aura de cesse de le faire. La candidature de Pompidou à la présidentielle, un esprit normal, la date du 29 avril 1969, surlendemain de la défaite au référendum du général de Gaulle. Un esprit informé, la date du 17 janvier 1969, sa déclaration de Rome, où il déclare qu'il se tient prêt le jour venu, mais il n'est pas pressé, ajoute-t-il, à se porter candidat. Un esprit curieux. Note que le 16 décembre 1965, à 3 jours de la réélection du général de Gaulle, Pompidou, entre guillemets, dit « Qui peut imaginer que le jour où le général de Gaulle disparaît, il ne se trouverait personne, notamment parmi ceux qui ont travaillé avec lui, pour essayer de demander au peuple français de continuer sa tâche ?» Les sondages politiques deviennent un outil qui correspond à cette période nouvelle. La présidentielle au suffrage universel fait de l'électeur. Le souverain captif dont parlait André Tardieu a rompu ses chaînes. Le président étant élu au suffrage universel, le maintien ou non de son lien avec les Français durant son mandat devient une question légitime. La mesure des cotes de popularité, de satisfaction, de confiance à l'égard du chef de l'État devient un enjeu politique important. La présidentielle suivante devenant un objectif manifeste pour les grands leaders, la mesure de leur popularité, de leur présidentialité, des intentions de vote vont désormais être scrutées. Les sondages vont jouer un rôle pour la sélection des candidats ou, en sens inverse, contribuent à leur renoncement, faute d'un soutien d'opinion suffisant. Mais le système politique est bouleversé plus encore en profondeur. Si j'osais, sans recourir à Monsieur de la Palice, je dirais que la présidentielle présidentialise tout le jeu politique. Le programme présenté par les candidats à la présidentielle devient le critère absolu de l'action politique. Prenons-en conscience, Mitterrand, par exemple, dans l'élection de 1981 que rappelait François Dorcival, 110 propositions. L'action est détaillée, nationalisation des banques, de 9 groupes industriels, les 35 heures, la 5e semaine de congés payés, la retraite à 60 ans, l'impôt sur les fortunes, le relèvement du SMIC, la création de 210 000 emplois dans le secteur public ou d'utilité collective. Et je suis allé regarder le programme de François Mitterrand en 1965. 7 options et 28 propositions qualifiées de concrètes. Parmi ces propositions concrètes, je cite « Respect des priorités régionales »,« Table ronde, gouvernement, syndicat, organisation agricole »,« Remise en ordre énergique des services de police », l'affaire Ben Barka commence à pointer son nez, « Examen des principes d'une politique démocratique en Outre-mer », »,« Création d'un secrétariat d'État à l'économie régionale ». Voici quelques-unes des propositions concrètes de 1965. On mesure le chemin parcouru. La présidentielle réorganise les partis et les alliances. Dès le lendemain de 1965, création de la Fédération de la gauche démocrate et socialiste autour de Mitterrand, du Centre démocrate autour de Le Canuet, réorganisation de l'UNR aux Assises de Lille en 1967. Le leader du parti devient son candidat naturel à la présidentielle, avec parfois des batailles terribles. Puis ensuite, ultérieurement, les leaders en vue de la présidentielle créeront leur propre mouvement, Jean-Luc Mélenchon avec la France Insoumise, ou Emmanuel Macron avec le mouvement En Marche, EM, un mouvement à ses initiales. Malheur à ceux qui ne s'adaptent pas aux nouvelles règles du jeu. Guy Mollet et la SFIO, toujours partisans d'une lecture parlementaire des institutions. Gaston Defferre et Pierre Mendès-France, étrange tandem de l'élection présidentielle de 1969. Alain Poher, partisan d'une présidence arbitrale en 1965, où il définit la notion de majorité en disant qu'il suffit qu'il n'y ait pas une opposition à l'Assemblée nationale pour que le gouvernement puisse gouverner. Malheur à ceux qui sont affaiblis par la nature même du scrutin. C'est le cas évidemment du Parti communiste qui ne pourra jamais avancer comme mot d'ordre l'élection d'un président de la République communiste. La présidentielle domine les législatives puis finit par les absorber. Les législatives se transforment dès 1967. Il s'agit pour les Français, dans tous les électorats, communistes, fédérés, centre démocrate ou UNR, de désigner une majorité pour gouverner le pays et pas des représentants dans chaque circonscription. Donc là aussi, la question des sondages devient de savoir si la majorité sera de quel camp et non plus de faire la somme après les élections législatives. La question de la concordance entre l'orientation politique du président de la République et la majorité législative devient une question majeure de la Ve République, sous le nom de cohabitation à partir de 1983, mais en réalité, dès 1967, la question de la concordance est posée et les appels du président de la République à la concordance des majorités présidentielles et législatives devient la règle. En 1958, le général de Gaulle, en conférence de presse, avait interdit aux candidats qui se réclamaient de lui d'utiliser son nom, fût-ce sous la forme d'un adjectif gaulliste. En 1962, il glisse dans son allocution post-référendaire un mot pour dire « Puissiez-vous confirmer dans la consultation nouvelle les enseignements tirés du référendum ?» En 1967, il intervient à la veille du premier tour pour inviter les électeurs à soutenir notre 5e République, qui est le sigle sous lequel se présentent ces candidats. Dans ce système où la présidentielle domine la vie politique, le rôle des sondages s'en trouve bien évidemment accru. Et je distinguerai 4 âges du sondage sous la 5e. Brièvement pour les premiers, bien sûr. Jusqu'en 1965, la connaissance des sondages politiques est réservée aux spécialistes et elle n'est même pas accessible aux férus de la politique. À partir de 1965 de la présidentielle, le sondage touche le grand public. À partir de 1969, les sondages deviennent un élément du débat public. Et à partir de 1981, les sondages deviennent un élément dans le processus politique. Les dates que je viens d'indiquer, elles ne sont pas choisies au hasard. 65, c'est la présidentielle. 69, c'est le départ du général de Gaulle. 80, c'est la grande alternance, l'arrivée de la gauche au pouvoir, l'élection de François Mitterrand. Dans la première période, je l'ai indiqué, les sondages sont réservés aux spécialistes. La revue sondage de l'IFOP, elle existe par exemple depuis 1938. Les sondages sont des outils précis quand on regarde les intentions de vote aux 4 référendums organisés par le général de Gaulle entre 1958 et 1962. Des outils précieux, la critique de la 4e République, la popularité ou l'impopularité des présidents du Conseil, les négociations à mener ou non sur la guerre d'Algérie. Mais ces informations sont réservées à un petit cercle et même pas aux férus de la politique. J'ai pris un exemple, les lecteurs du Monde, le journal Le Monde, cher à Jean-Marie Colombani, qui a fait évoluer les choses à cet égard. Quand je regarde le second semestre 1962, c'est maintenant possible grâce au moteur de recherche, le mot « sondage ». Le second semestre 1962, attentat du petit Clamart, convocation par le général de Gaulle d'un référendum sur l'élection du président de la République au suffrage universel, vote d'une motion de censure à l'Assemblée nationale, dissolution de l'Assemblée nationale, tenue du référendum, élection législative, majorité favorable à l'UNR et à ses alliés indépendants, républicains indépendants, à la Assemblée nationale, bref, le grand tournant de la Ve République. J'ai donc tapé sur le moteur de recherche le mot « sondage » dans Le Monde, et j'ai trouvé 5 citations. La première, le taux de possession des appareils électroménagers. La seconde, l'évaluation de la population active agricole. La troisième, l'état de revenu des cadres. Manifestement, les études de l'INSEE plaisent aux services économiques du Monde. La quatrième, le souhait d'union de l'Europe, une enquête menée bien sûr par la Commission européenne. Cinquième sondage, le régime présidentiel. Je me suis dit chic. Chic, trop vite, car c'est au Brésil où 92% des électeurs sondés se déclarent favorables au régime présidentiel. Évidemment, le Brésil, depuis un an, venait d'entrer en dictature militaire et à tout prendre, le régime présidentiel paraissait préférable probablement aux Brésiliens. Bref, pas un mot sur les sondages dans le second semestre 1962 pour le lecteur du Monde. Donc, une totale mise à distance et un avantage pour les grands éditorialistes du journal qui, à l'approche du scrutin et eux, ayant connaissance des données d'enquête, peuvent dire « la tendance paraît se aller dans tel sens, on croirait entendre Geneviève Tabouy et c'est « attendez-vous à savoir ». Deuxième âge, le sondage touche le grand public et du coup les férus de la politique. La presse généraliste France Soir et la presse novatrice L'Express publient des enquêtes et au-delà de l'entrefilet. Le Monde lui-même ne peut plus totalement les ignorer. Par exemple, en 1965, à la veille du second tour, j'ai trouvé un intertitre dans lequel Le Monde dit « Le général de Gaulle est attendu entre 54 et 55% des suffrages au second tour ». Mais Le Monde se distingue habilement en commençant à publier des analyses détaillées sur la structure des électorats que conduit un jeune journaliste promis à un bel avenir, Alain Duhamel. La preuve que le grand public est touché, c'est que le ballotage du général de Gaulle en 1965 avait créé un choc énorme. Sa défaite en 1969 au référendum est attendue par presque tout le monde. Il n'y a que 30% des Français pour se déclarer surpris par la victoire du non au référendum de 1969. Quant au général de Gaulle lui-même, on sait par le journal de Jacques Foccart, le général en mai, qu'il savait parfaitement à quoi s'attendre dans les semaines précédant le scrutin et qu'il glisse à son conseiller le vendredi midi en quittant l'Élysée pour Colombey, l'avant-veille du scrutin, « Je ne remettrai pas les pieds ici ». Le troisième âge des sondages, il devient un élément du débat public. Et je dirais que dans cette période, la focalisation qui va donc de 1969 à 1981, la focalisation se fait sur la notion de popularité. Popularité du président, du premier ministre, des dirigeants politiques. La popularité mesurée par les sondages d'opinion devient une ressource politique. C'est l'inverse de la IVe République, où le président populaire, le président du Conseil vraiment populaire, Pierre Mendès-France, lui au contraire, a souffert d'une trop grande popularité que les parlementaires ne lui pardonnaient pas. Je remarque d'ailleurs, j'ai recherché pour tous les présidents du Conseil de la IVe République les références, il y a malheureusement un seul absent, je le regrette très vivement, c'est Antoine Pinay, pour lequel nous n'avons aucune mesure. Donc, pourtant il est resté 9 mois chef du gouvernement, c'est fort dommage. Mais en tout cas, Pierre Mendès-France, très populaire, plus de 60% de satisfaits de son action comme président du Conseil, alors que la plupart des présidents étaient à moins de 30%, eh bien, sous la IVe, on ne lui pardonnait pas. Quelques distinctions s'imposent sur la popularité. La popularité ou l'impopularité globale peut cacher des informations plus fines. Il peut y avoir des popularités en trompe-l'œil, où on est porté par la sympathie des adversaires politiques de son camp sans être vraiment capable de mobiliser ses troupes. C'est le reproche qui a souvent été adressé à Michel Rocard ou à Jacques Delors. Il y a des impopularités surmontables. François Mitterrand, par exemple, entre 1968 et 1971, est au plus bas dans les sondages d'opinion, rejeté par les Français, mais toujours le plus populaire parmi les électeurs de gauche, ce qui indique une capacité de rebond. La popularité peut être sans force politique véritable ou sans présidentialité accordée. Sans valeur politique, une popularité de papier, une popularité de façade, un grand sportif, un champion olympique, un médecin porte-drapeau de l'humanitaire, un animateur de télévision, défenseur acharné de la planète, peuvent avoir des cotes de popularité très élevées sans qu'elles aient un contenu politique de mobilisation derrière elles. La popularité sans présidentialité. Les Français, dans les sondages, font la différence très clairement. Ainsi, en septembre 1984, à la Sofresse, mesurions-nous en même temps la popularité exigeante, est-ce qu'on souhaite voir jouer un rôle important dans les mois et les années à venir aux personnalités, et la mesure de la présidentialité, est-ce qu'il ou elle ferait un bon président ? Prenons les leaders de la droite. La popularité, Simone Veil en tête, elle vient de mener la liste d'union aux européennes en juin 1984, 42% des suffrages exprimés. Elle est en tête en popularité, 48%, devant Raymond Barre, 42%, Jacques Chirac, 41%, et Valéry Giscard d'Estaing qui ferme la marche, 30%. La présidentialité, capacité de faire un bon président, Giscard retrouve ses 30%, aucune différence. Raymond Barre est à 39%, 3 points de perdu par rapport à sa popularité. Jacques Chirac à 34%, 7 points de perdu. Mais là, c'est Simone Veil qui ferme la marche, 27% seulement, 21 points de différence entre la popularité et la présidentialité. Une information sans l'autre n'a évidemment pas la même valeur. Si je poussais plus loin l'analyse de la popularité, je dirais que la popularité est un atout politique davantage pour la conquête du pouvoir que pour son exercice. Et j'ajouterai que l'impopularité n'est pas un handicap absolu, ni pour l'exercice du pouvoir, ni même pour sa conquête. Une ressource pour la conquête, Dieu merci, il y a un certain nombre de leaders populaires qui ont réussi à se faire élire président de la République ou qui ont accédé aux plus hautes fonctions. Mais ce n'est pas forcément un atout décisif pour exercer le pouvoir. Le général de Gaulle, tout populaire qu'il était, a affronté la grève des mineurs en 1963 et y a perdu 20 points de sa popularité et une image sociale. Le général de Gaulle, avec 61% de popularité en avril 1968, a affronté les événements de mai, la plus grande crise sociale, politique, civilisationnelle que le pays ait connue depuis la guerre. Mais pour autant, l'impopularité n'est pas un handicap absolu dans l'exercice du pouvoir. Il y a d'autres conditions pour exercer le pouvoir. Disposer d'une majorité solide qui vous soutient à l'Assemblée nationale, bénéficier de la faiblesse et de la division des adversaires, si possible, bénéficier encore d'une attente des Français pour l'action à mener. Tout rapprochement avec la situation actuelle ne serait pas pure coïncidence. Et ce n'est pas un handicap absolu pour conquérir le pouvoir, comme nous le prouvent François Mitterrand en 1981 ou Jacques Chirac en 1995. D'autres éléments interviennent. La capacité de mobilisation, l'un et l'autre, on n'en était pas privé. L'existence d'un allié caché. Pour Jacques Chirac, pour Mitterrand en 81, on voit bien qui était l'allié caché face à Valéry Giscard d'Estaing. Une stratégie de contournement. En 1995, Jacques Chirac contourne Édouard Balladur sur sa gauche dans une manœuvre réussie. Au moment où les Français sont à la recherche d'une solution politique parce qu'ils ne veulent plus d'un leader, à ce moment-là, leur image change. Et l'image qu'ils se font du leader s'adapte à la nouvelle donne. Prenons Mitterrand. On le qualifiait en 1981, avant son élection, d'éternel perdant. C'est la preuve de sa persévérance. On le jugeait trop vieux. C'est la preuve de sa très grande sagesse. Et pour Jacques Chirac, en 1995, jusqu'en février, à 2 mois de l'élection, c'était un homme dangereux. C'est la preuve qu'il est déterminé. C'était un démagogue. C'est la preuve qu'il est volontariste et à l'écoute des Français. La quatrième période, c'est À partir de 1980, le sondage devient un élément dans le processus politique. Il y a intégration des sondages dans les partis politiques, dans les luttes sociales, dans le système politique lui-même. Dans les partis politiques, l'opinion sur les sondages devient, je dirais, un élément de concurrence et en partie de délégitimation des partis politiques eux-mêmes. Le Parti socialiste va connaître cette situation où les sondages entrent en concurrence directe avec son appareil politique. C'est Michel Rocard face à François Mitterrand en 1980, il échoue. Mais en 1995, Lionel Jospin est désigné face au premier secrétaire Henri Emmanuelli au nom de l'efficacité électorale dans une primaire réservée aux adhérents. Et Ségolène Royal, en 2006, réussit à gagner précisément au nom de la logique d'opinion contre la logique politique. Le Parti socialiste va même, c'est Henri Emmanuelli, son premier secrétaire, fin 1994, au congrès de Liévin, qui lance un appel à Jacques Delors pour qu'il soit candidat à la présidentielle. À Jacques Delors qui avait dit que s'il était candidat, ce serait par devoir. Et Emmanuelli conclut le congrès en disant « Je pense avoir le droit de te dire, Jacques, au nom de la majorité des socialistes, que c'est ton devoir. C'est ton devoir, non pas envers les socialistes, mais c'est tout simplement ton devoir envers les Français. » Bref, le premier secrétaire considère que la logique d'opinion seule compte, alors même que le parti prend un tournant à gauche, totalement contraire aux positions politiques de Jacques Delors, et que par ailleurs, les centristes se dérobent à toute alliance. Pauvre Jacques Delors, mais il finit par renoncer. En 2009, le Parti socialiste adopte des primaires pour désigner son candidat. Le mouvement étant amorcé dès 2006, avec les adhérents à 20 euros, c'est-à-dire qu'il retire au sondage un rôle que ceux-ci ne souhaitaient pas vraiment jouer, mais qu'en même temps, il reste avec les primaires dans la logique de l'appel à l'opinion publique pour désigner ses candidats. Côté droite, la guerre des chefs a dominé la droite au moins de 1974 à 1995, et les sondages y ont pris place, souvent en mettant de l'huile sur le feu, et parfois comme critère de décision ou de ralliement. Au RPR, les choses sont claires, c'est le chef qui s'impose. Sauf qu'il y a conflit, parfois, entre la position du chef et l'occupation du pouvoir. C'est la bataille violente entre Jacques Chirac et Édouard Balladur, Balladur portée par des intentions de vote très prometteuses. En sens inverse, en 2007, quand le chef achève son parcours, un autre chef naît et Sarkozy laisse sur place Villepin, pourtant Premier ministre, avec des différences massives dans les sondages entre les deux. À l'UDF, où le culte du chef est une notion étrangère, le sondage joue un rôle en termes de non-candidature, de ralliement ou de candidature. Non-candidature, Valéry Giscard d'Estaing ne peut être candidat alors qu'il rêvait de prendre sa revanche, ni en 1988, supplanté par Raymond Barre, ni en 1995, effacé par Édouard Balladur. Ralliement, c'est le ralliement massif précisément de l'UDF à Édouard Balladur en 1995, fort de ses très bons sondages, du choix en sa faveur de la quasi-totalité des sympathisants UDF et aussi de sa proximité de fait avec le parti. La candidature, c'est celle de Raymond Barre en 1988. Raymond Barre, qui dit les choses sans phare dans son livre de pré-campagne « Question de confiance » écrit dans un dialogue avec Jean-Marie Colombani. Je cite Raymond Barre. « La décision de briguer la charge suprême est largement induite par la confiance qui se manifeste dans l'opinion publique envers un homme qu'elle estime en mesure d'assumer cette charge. On s'en rend compte dans les sondages. » Intégration des sondages, donc, dans les partis politiques. Intégration des sondages dans les luttes sociales. Elle date des grandes grèves de 1995, les fameuses grèves par procuration. L'attitude de l'opinion publique à l'égard des mouvements sociaux devient un enjeu au moins aussi important en cas de grève que les manifestations qui les accompagnent. Avec ce précédent, où l'opinion a soutenu de bout en bout le mouvement social, la mise en avant par les leaders syndicaux des données d'opinion publique devient un fait. Par exemple, dans la lutte contre la loi El Khomri menée en mai-juin 2016, j'ai retrouvé une citation de Philippe Martinez, le leader de la CGT, qui date du 19 juin 2016, en plein conflit, et il dit au journaliste interrogé à la télévision « Je vous rappelle que le mouvement dispose d'un soutien très large de l'opinion publique. Plus de 60% des Français sont pour le retrait ou la modification de ce texte. Et ce qui devrait alerter plus encore le président de la République. Chez les moins de 25 ans, le soutien monte à 80%. La jeunesse a bien compris l'avenir qu'on lui prépare et elle rejette ce texte. L'effet boomerang est sans limite. C'est quand le soutien de l'opinion publique se retire, qu'est-ce qui reste aux leaders syndicaux? Nous venons de le voir avec le conflit de la SNCF, où les sondages, tout au long de la période, ont été négatifs pour le mouvement, ne lui ont donné aucun soutien, et évidemment, avancer cet argument pour légitimer les conflits, c'est prendre le risque de voir se retourner le propos. Intégration des sondages dans le système politique lui-même. Je prendrai l'exemple de la cohabitation qui s'est produite à trois reprises entre 1986 et 1997. Une épreuve pour la Ve République. Et au fond, on pouvait se poser la question de la durée de ces cohabitations. Mais les sondages-là ont exercé un poids direct sur le système politique car la cohabitation est populaire. Tant dans les sondages de 1986, avant les élections de mars, les Français en majorité pensaient que ce serait une période négative. Ça se renverse dès le mois de juin et ça restera constamment jugé comme une période positive, la cohabitation. C'est aussi vrai en 1993, c'est aussi vrai dans un sondage en septembre 1998 pour la cohabitation Chirac-Jospin. Pourquoi ? Pourquoi ? Sans doute parce que la cohabitation permet en réalité un partage du pouvoir, ou ce qui semble être un partage du pouvoir, et une représentation politique au plus haut niveau pour toutes les tendances ou presque de la vie politique qui y trouvent leur bonheur, le problème étant bien sûr, au bout d'un moment, la sortie de la cohabitation. Alors si le sondage est un élément du processus politique, ce n'est pas un élément tout puissant. Sans quoi, Michel Rocard eût été le candidat des socialistes en 1981, Raymond Barre aurait affronté Mitterrand au second tour de 1988, Édouard Balladur aurait été élu dans un fauteuil en 1995 et Alain Juppé aurait triomphé en 2017. C'est, et bien sûr, je perçois bien le fait de parler avec aisance avec le recul de l'histoire, il ne faut pas se tromper de cible, c'est ce que faisait Rocard. C'est ce que faisait Rocard en confondant les militants socialistes qui allaient voter à la primaire théoriquement et en s'adressant en même temps aux Français, tous en se déclarant disciplinés à l'égard du Parti socialiste et fidèle à la promesse qu'il avait faite à son premier secrétaire au congrès de Metz de ne pas être candidat contre lui. Il ne pouvait plus s'en sortir. Il ne faut pas se tromper de tour de scrutin. Raymond Barre, par exemple, je cite, le 10 février 1988, Chirac s'est déclaré le 16 janvier 88. Raymond Barre est candidat le 8 février 1988. Barre était en tête des sondages face à Chirac jusqu'à la déclaration de candidature de Chirac. Il passe derrière après la candidature de Chirac. Mais voilà ce que dit Raymond Barre dans une interview du 10 février, alors qu'il est devancé par Chirac et qu'il n'y a que deux places pour le second tour de la présidentielle. Je cite Raymond Barre. « Pourquoi voulez-vous, alors que le seul candidat qui compte, le socialiste, donc Mitterrand, n'est pas entré en campagne, que j'aille gaspiller mon temps, mes efforts et mes munitions. Je ne vais pas me mettre à gambader. » Ça, c'est vraiment du Raymond Barre. Mais évidemment, la situation, c'est que Mitterrand attendra le plus tard possible pour être candidat, d'être bien certain que Chirac sera son adversaire principal, et il pourra ensuite reprendre les thèmes barristes pour sa campagne de 88, un petit chef-d'œuvre politique auquel Raymond Barre a contribué d'une certaine façon. Balladur, élu dans un fauteuil en 1995, l'auteur de cette communication le sait mieux que quiconque. En réalité, M. Balladur, la difficulté, c'est de ne pas se tromper de rôle. Il avait le double handicap, finalement, d'être à la fois en position de sortant et de devoir passer de la position de Premier ministre directement à celle de président, ce qu'aucun Premier ministre sous la Ve République n'a réussi. C'est une des leçons de cette République. Les talents du candidat ne sont pas à la hauteur des talents du gouvernant, même si Édouard Balladur fera preuve de courage et de constance en ne renonçant jamais pendant sa campagne et en finissant finalement assez près de Jacques Chirac, seulement 2 points d'écart à l'arrivée. Ne pas se tromper de moment, c'est pour Alain Juppé, le grand favori, enfin populaire. Il faut dire qu'il n'en revenait pas, Alain Juppé, de devenir populaire. Au lieu de distinguer logiquement 3 séquences, la primaire, le premier tour, le second tour, et on ne parle pas de la même façon à chacune de ces séquences, Alain Juppé, qui est un esprit totalement rationnel, avait considéré que la cohérence exigeait de lui qu'il tienne le même discours d'un bout à l'autre de la campagne, c'est-à-dire qu'il parle en permanence comme s'il s'agissait de rassembler les Français, et à aucun moment, finalement, pendant la primaire, il ne s'est adressé aux électeurs de droite qui, pourtant, étaient directement concernés. Je termine mon propos, Monsieur le Président, si vous m'y autorisez, en disant que ces sondages qui ne sont pas tout puissants ne sont pas non plus des sondages infaillibles. Dans les 60 ans d'histoire de la Ve République, je pourrais parler du dérèglement de la Ve République dans la dernière période, mais là, nous nous engagerions dans une discussion trop longue. Il y a eu un certain nombre d'échecs, d'erreurs et de dérèglements dont les sondages ne sont pas exempts. De mauvaises appréciations s'étaient produites en 1967. L'amplification de la victoire gaulliste annoncée au soir du premier tour par les instituts de sondage s'était révélée très exagérée, ce qui avait fait passer pour une lourde défaite le fait que les gaullistes gardent un siège de majorité avec leurs alliés, ce qui n'était tout de même pas une mince performance. En 1978, les sondages annonçaient une victoire de la gauche qui ne s'est pas produite. Et songeons combien, pour l'histoire, il a été important pour la gauche d'arriver au pouvoir par la présidentielle et non pas par les législatives de 1978, ce qui évidemment a contribué, comme je le disais, à présidentialiser l'ensemble du jeu politique, puisque Mitterrand a été assez béni par l'histoire pour arriver directement à l'Élysée sans passer par la case de Matignon qui l'aurait peut-être bloqué. En 1995, les sondages n'ont pas donné le tiercé dans l'ordre. On leur en a voulu, mauvaise année 1995. Mais l'erreur la plus grave, c'est celle de 2002. Aucun sondage n'annonce la qualification de Jean-Marie Le Pen au second tour de la présidentielle. C'est la seule fois de ces 10 élections où les sondages n'annoncent pas les 2 qualifiés du second tour. Le choc est comparable au ballottage du général de Gaulle en 1965 ou à la victoire de Mitterrand en 1981. Les explications sondagières existent, sous déclaration des électeurs Le Pen dans les sondages qui n'osent pas avouer leur vote. Et les derniers sondages, celui de la Sofresse, par exemple, 19% pour Chirac, il obtiendra 19,9. 17% pour Jospin, il obtient 16,2. 14% pour Le Pen, il obtient 16,9. Rien de scandaleux du point de vue statistique, mais un désastre politique. L'explication politique, c'est que l'élection est une élection négative, où on a envie de voter ni pour Jospin ni pour Chirac en attendant le second tour. Dispersion de la gauche éliminée, alors qu'elle totalise 43% des suffrages exprimés au premier tour. Et refus de Jospin d'appeler au vote utile. Mais la difficulté des sondages, c'est aussi que la possibilité in fine d'une qualification de Jean-Marie Le Pen au second tour eût été perçue comme une manipulation. Le Monde, par exemple, Le Monde daté du 17 avril, qui, on voit quand même les choses évoluer, titre à la une, l'extrême droite présente au second tour, point d'interrogation. Noël Mamère, candidat écologiste, il va dépasser les 5% à ce premier tour, le soir même déclare « Ne vous laissez pas berner. Faire croire que Jospin ne peut pas être au second tour, c'est prendre les Français pour des imbéciles. » À la vérité, la situation est impossible pour l'exactitude des sondages. S'ils avaient annoncé l'élimination de Jospin et la qualification de Le Pen, ils auraient été désavoués par le changement de vote d'une fraction d'électeurs pour éviter ce scénario. Du coup, ils n'auraient pas davantage annoncé les 2 qualifiés du second tour. Mais les conséquences politiques n'auraient pas été les mêmes. Donc ces sondages ne sont pas tout puissants, ils ne sont pas infaillibles. Dans ces conditions, Monsieur le Président, et pour répondre à votre question, qualifier la Ve République de République des sondages me paraît excessif. Il est vrai que les sondages y ont une place et une importance très grande, à nul autre pareil. Et la preuve, d'ailleurs, c'est que leur justesse les a portés en 1965 et que l'erreur terrible de 2002 ne leur a pas davantage nui. Ils ont gardé toute leur importance après en raison de leur osmose avec le système politique et le système institutionnel. Mais la preuve qu'ils ont leurs limites, je la trouve dans le fait que le général de Gaulle, pour le général de Gaulle, jamais le pourcentage de mécontents n'a été supérieur au pourcentage de satisfaits dans les 104 mesures de popularité de l'IFOP de son décennat. Il a été minoritaire une fois dans les urnes, en 1969, et il s'est retiré du pouvoir. Mitterrand, dans ces deux septennats, a été 72 fois minoritaire. Entre 80 et 86, il a été 43 fois minoritaire sur 55 mesures où le taux de mécontent était supérieur au taux de satisfait. Il a perdu deux fois des élections législatives. Il s'est maintenu au pouvoir. Il a été réélu. Il est allé jusqu'au bout de son deuxième mandat. C'est la preuve que d'autres éléments comptent davantage que les sondages. La cinquième ne saurait être réduite à une république des sondages, et permettez-moi de le dire, c'est heureux.